Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le bilan s'est encore alourdi après une tentative de passage dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Au moins 37 candidats à l'exil ont été tués selon les ONG. Les Jeux méditerranéens d'Oran en Algérie sont un événement qui peut rapprocher nos deux pays. Des mots de Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoire de Progrès. Il était présent à la cérémonie d'ouverture de cette 19e édition samedi soir. Il sera l'un de nos invités. Les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine, notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Illustration au Maroc, où l'inflation devrait atteindre 5,3% cette année, selon les projections de la Banque centrale marocaine. Nous écouterons Abdeslam Seddiki, économiste et ex-ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. À l'approche du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet prochain, regard sur un ouvrage de l'ALN à l'ANP, la construction de l'armée algérienne 1954-1991 aux éditions de la Sorbonne. Vous entendrez son auteur, Safia Areski. Le lourd bilan après la tentative de passage de près de 2000 clandestins dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Au moins 37 migrants ont été tués selon les associations. C'est de très loin le bilan le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'autre enclave espagnole de Ceuta. Les deux enclaves sont les deux seules frontières de l'Union européenne avec le continent africain. L'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ont exprimé leurs plus vives inquiétudes et rappeler la nécessité en toutes circonstances d'agir pour la sécurité des migrants et des réfugiés. C'est l'un des plus grands événements sportifs organisés par l'Algérie depuis des années. La ville d'Oran accueille depuis samedi les 19e Jeux méditerranéens. 26 pays dont la France sont représentés. 3400 athlètes ont fait le déplacement. Parmi les personnalités politiques françaises présentes à la cérémonie d'ouverture, samedi soir, Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoire de Progrès.
C'était déjà important pour moi et pour la délégation française parce que nous avions déjà une équipe française présente sur ces Jeux méditerranéens et puis c'était aussi un moyen de consolider l'amitié séculaire que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes avec une délégation avec beaucoup d'élus franco-algériens et donc il y a aussi ce lien fort entre nos deux pays. Donc pour nous, c'était important et on remercie le gouvernement algérien de son invitation pour ces Jeux. Et puis après, on a été très, très agréablement surpris par l'accueil fantastique des Algériens, du peuple algérien, tout au long du parcours de la délégation. Et puis dans le stade, avec un spectacle sur l'ouverture et la cérémonie d'ouverture qui était fantastique. Donc vraiment un très beau moment.
Le sport est une source de rapprochement entre les peuples.
Le sport a été souvent un outil politique, positivement ou négativement, et donc je pense qu'on est dans une période où on a besoin de rapprocher les peuples, et ces Jeux méditerranéens en sont le symbole, et donc oui, je pense qu'effectivement c'était un événement, et c'est un événement qui peut rapprocher de deux pays.
Et là, ce sont les liens entre les deux rives de la Méditerranée qui sont mis en lumière à travers ces Jeux.
Tout à fait. Je pense que, encore une fois, on a une histoire commune qui a été parfois semée d'embûches, mais qui est avant tout une histoire fraternelle. Et donc, je pense que c'est important qu'on puisse garder ce lien fort. Nous avons beaucoup de franco-algériens en France. Oui, notre histoire est liée et donc on a besoin de retrouver maintenant des liens beaucoup plus forts économiquement, culturellement. Et je pense que ce genre d'événement fait partie de ces rapprochements.
Vous mettez en lumière cette histoire commune. Cet événement se déroule lors du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Ce sera le 5 juillet prochain. Ces Jeux se poursuivront à ce moment-là. C'est aussi un élément très important.
C'est un événement important pour l'Algérie. Ça a été aussi un événement important pour la France. Voilà, moi, vous savez, je suis parti d'une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie. Et malgré tout, on en ressent encore les soubresauts. Et donc, je pense que c'est notre génération d'élus de faire en sorte de reconstruire quelque chose, un lien beaucoup plus fort entre nos deux pays, sans avoir les cicatrices du passé, en n'ayant aucun déni sur ce qui s'est passé entre nos deux peuples, mais en allant vers l'avant. Et je pense que c'est important.
C'est un travail qui a été mené lors du dernier quinquennat du président Emmanuel Macron. Cette question mémorielle qui a été l'un des éléments marqueurs du précédent quinquennat, notamment avec le rapport de l'historien Benjamin Stora. Cette question qui a été peu présente durant la précédente campagne, ce travail doit se poursuivre?
Moi, vous savez, je suis très attaché au devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire, parfois, il peut heurter, il peut faire mal, il peut... faire en sorte de raviver un certain nombre de cicatrices, peu cicatrisées d'ailleurs, mais je pense qu'au contraire, ce devoir de mémoire nous permet d'avancer, de savoir d'où on vient, ce qui s'est passé, ça nous permet d'avancer et d'assumer un passé qui n'était pas forcément de notre responsabilité, mais qui a été la responsabilité de nos pays et donc de nos anciens gouvernements. Et donc assumer cette histoire-là, ça nous permet aussi d'avancer pour une collaboration et un partenariat beaucoup plus fort dans les années à venir.
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoire de Progrès. La journée d'hier marquait le début du tournoi de football aux Jeux méditerranéens d'Oran. La France l'a emporté 1-0 face au Maroc, un match animé qui a rapidement tourné à l'avantage des Bleuets. Les jeunes Français affronteront l'Espagne demain. Les Espagnols se sont inclinés 0-1 face aux jeunes Algériens dans l'autre rencontre du groupe. Et un séisme de magnitude 5,1 s'est produit hier soir près d'Oran, cette ville de l'ouest de l'Algérie qui accueille donc depuis samedi les Jeux méditerranéens. La protection civile indique que cette secousse ressentie par les habitants de la wilaya n'a pas fait de victimes et que les dégâts sont mineurs. Les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine, notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Illustration au Maroc où l'inflation devrait atteindre 5,3% cette année, selon les projections de la Banque centrale marocaine. En cause, la flambée des prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires. Entretien avec Abdeslam Sediki, économiste et ancien ministre de l'Emploi et des Affaires sociales au Maroc.
Pour ce qui est des conséquences de la guerre en Ukraine, ça ne diffère pas des autres pays. Les conséquences sont extrêmement graves, voire inquiétantes, car le Maroc est pratiquement dépendant à hauteur de 90% au niveau de ses besoins énergétiques. Il y a la question du pétrole qui pèse de tout son poids sur la balance commerciale et la balance de paiement. Également, ça tombe sur une année de sécheresse. Donc le Maroc enregistre un déficit en termes de la production alimentaire. Il doit importer des quantités importantes de blé. Donc tout cela, ça n'arrange pas les choses. Par ailleurs, effectivement, sur un autre côté, le vente de phosphate s'améliore énormément. De la même manière, les transferts de nos compatriotes à l'étranger se maintiennent globalement dans une position très favorable. Malgré cela, l'année 2022, d'après les prévisions de Banque du Maroc, se termine avec un taux de croissance à peine égal à 1%. Avec un taux d'inflation qui dépasse 5%, et avec une aggravation du déficit commercial, et une aggravation également du déficit budgétaire qui dépasserait 6%. Tout cela est bouclé par un niveau de chômage qui reste à un niveau très très élevé, notamment dans les milieux des jeunes, où il se rapproche de la barre de 30% pour les diplômés en chômage. C'est inquiétant. C'est pour cela que certains milieux s'attendaient à ce que la Banque du Maroc revoie le taux directeur. Mais je crois qu'il s'est comporté, à mon avis, d'une manière sage, de maintenir le taux directeur en l'état, parce que la situation de l'inflation au Maroc diffère de l'inflation dans les pays développés. Chez nous, nous n'avons pas une inflation par la demande, mais une inflation monétaire. L'essentiel de la hausse des prix est dû à l'importation. Donc c'est une inflation importée. Et si, des fois, on s'amuse à augmenter le taux directeur, c'est-à-dire à augmenter le taux d'intérêt, on va pénaliser davantage l'entreprise et l'investissement, et on va aggraver davantage le chômage et les sous-emplois. Donc, à mon avis, la Banque centrale a bien fait de ne pas imiter la politique suivie par la Banque centrale européenne ou bien par la Fed aux États-Unis.
Quelles sont aujourd'hui les conséquences sociales de cette hausse des prix?
Les conséquences sociales, le prix à la pompe grimpe d'une semaine à une autre. Le prix de l'essence, il est à 18 dirhams, et celui du diesel, il est à 16. On s'attend à ce qu'il franchisse la barre de 20 dirhams, c'est-à-dire à peu près de 2 euros, ce qui est insupportable pour les larges couches de la population marocaine. Il y a un problème, tout le secteur du bâtiment qui vit dans une certaine morosité, il y a beaucoup, tout pratiquement les chantiers, on estime que la moitié des chantiers dans les travaux publics sont à l'arrêt, égard à l'augmentation des prix des matières premières, des prix des produits de construction. Des matériaux de construction, comme le ciment, l'aluminium, le zinc, tout ça, il a augmenté à des prix, à des niveaux exorbitants. Bon, à vrai dire, la situation sociale est inquiétante. C'est pour cela qu'on espère que cette guerre se termine rapidement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de personne à ce qu'il continue, à moins que, sauf à l'exception de quelques milieux de forces étrangères qui tirent leur épingle du jeu. Mais pratiquement tous les peuples du monde en pâtissent.
Quelles ont été les mesures prises par le gouvernement marocain pour faire face à cette situation de hausse des prix?
Les mesures prises sur les hydrocarbures, le gouvernement n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a pas répondu à l'appel qui lui a été lancé pour remettre en activité notre raffinerie de pétrole, qui est la SAMIR, qui est à la rue depuis des années. Ça aurait pu donner une souplesse ou bien un plus par rapport notamment aux capacités de stockage. Deuxièmement, il n'a pas touché à la taxe sur la valeur ajoutée sur les hydrocarbures, comme il n'a pas touché à la taxe intérieure de consommation. On estime que les sociétés de distribution de pétrole bénéficient de marges bénéficiaires extrêmement élevées, ce qui se fait à l'encontre des consommateurs. Et par ailleurs, le gouvernement a pris la décision de soutenir les transporteurs, que ce soit des marchandises ou des voyageurs, afin d'alléger les répercussions de la hausse des prix sur le prix des services, de transport et de voyage. Ça, c'est une bonne chose, mais c'est une mesure somme toute limitée. D'un autre côté, il y a quelques mois de cela, le gouvernement a donné une aide au secteur touristique de 2 milliards d'euros. On a vu qu'une année de sécheresse, et le gouvernement a débloqué une somme de 2 milliards de dirhams, mais dont 70% concerne surtout le réchauffement des dettes des agriculteurs. Voilà en gros ce qui a été fait par le gouvernement. On estime que ce n'est pas suffisant pour calmer la situation, ce n'est pas suffisant pour redonner confiance. Les signes de malaise social, ils sont réels, visibles, et encore une fois, on espère qu'on traverse une telle situation sans trop de casse.
Mais le budget consacré aux subventions pour le gaz butane, la farine et le sucre a augmenté.
Effectivement, il a augmenté. D'après le gouvernement, il vient d'adopter la semaine dernière un décret pour faire passer le budget réservé à la caisse de compensation de 16 milliards à 32 milliards. Donc ça fait 16 milliards. Ça, c'est une mesure importante parce que le gaz butane a vu son prix stagner. La bouteille de gaz de 12 kilos, il est toujours vendu au même prix. Et l'État la subventionne à plus de 100 dirhams la bouteille. De la même manière, le prix du pain réalisé à base de blé tendre, il est demeuré le même à 1 dirham 20. Et également le sucre qui est subventionné. Mais quand il y a beaucoup de problèmes, les mesures comme ça fragmentaires servent à quelque chose, mais ne servent pas à grand-chose.
Le Maroc qui prépare bien entendu la saison estivale, c'est aussi un enjeu économique important pour le pays, après les mesures liées à la crise sanitaire, puisque cette crise sanitaire se poursuit.
Depuis pratiquement 3 ans que nos résidents marocains à l'étranger ne sont pas rentrés au pays, maintenant là, l'opération Marhaba est lancée, on s'attend à un afflux massif de nos résidents marocains à l'étranger. Certainement, dont les répercussions vont être extrêmement positives pour un peu dynamiser l'économie, la demande, parce que la plupart de nos compatriotes, ils ont leur famille dans le monde rural. Ça fait des flux de revenus importants dans le circuit économique. C'est toujours ça de gagner.
Abdeslam Sediki, économiste, ancien ministre de l'Emploi et des Affaires sociales au Maroc. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, après 2 semaines consacrées aux plaidoiries de la défense, la parole a été donnée ce matin une toute dernière fois aux accusés. Le verdict est attendu mercredi soir. Le parquet national antiterroriste a requis des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Cette peine concerne Salah Abdeslam, seul membre des commandos du 13 novembre, encore en vie. Face à l'inflation, le gouvernement français propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant 1 an. Ce dispositif, nommé bouclier loyer, sera inscrit dans le projet de loi de finances rectificative qui doit être voté cet été par le Parlement. Les associations de consommateurs qui appellent à un gel des loyers se disent déçues. À l'approche du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet prochain, regard sur un ouvrage de l'ALN à l'ANP, la construction de l'armée algérienne 1954-1991, c'est aux éditions de la Sorbonne, son auteur Safia Reski.
La Tunisie et le Maroc obtiennent donc leur indépendance en 1956 et très rapidement, l'ALN va installer des bases fixes sur ces territoires qui vont servir d'une part à faire transiter des armes et progressivement à assurer une formation aux combattants de l'ALN. À partir de 56-57, la France va construire au Maroc la ligne Tédron et en Tunisie les lignes Maurice et Challe qui sont des barrages électrifiés avec des zones minées, etc. pour empêcher les combattants de se rendre en Tunisie, s'approvisionner en armes, etc. Et donc progressivement les frontières vont devenir de plus en plus étanches et les hommes ne vont plus pouvoir retourner sur le territoire algérien. Alors pourquoi la Tunisie plus que le Maroc ? C'est lié à l'implantation du mouvement révolutionnaire qui est beaucoup plus présent au départ quand même à l'Est, dans les Aurès, notamment en Kabylie, etc. Et donc géographiquement, l'Est est bien entendu plus proche de la Tunisie pour aller s'approvisionner en armes et se former.
Safia Reski, à quelles difficultés ont été confrontés les chefs militaires de l'ALN quand il a fallu construire l'armée algérienne après la guerre ?
Alors, il y a déjà eu une grosse crise au cours de l'été 62. C'est une crise assez compliquée avec des lignes de fracture assez nombreuses, mais il va y avoir des gros conflits entre notamment ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur. Il va falloir unir ses forces, et c'est d'ailleurs Ben Bella, donc le premier président de la République algérienne, dans une interview de novembre 62, qui a dit « Nous n'avons pas une armée, mais sept armées de libération, les Siwilaya plus l'armée des frontières ». Donc il va s'agir d'unir ses forces, ce qui va être un processus qui va prendre quand même assez... qui va prendre du temps. Il y a également la question que j'ai commencé à évoquer, la question de l'analphabétisme, de l'illettrisme et de la professionnalisation nécessaire de ces forces militaires. Donc voilà, ça va être vraiment les gros enjeux, mais la professionnalisation, c'est un processus qui va prendre une bonne vingtaine d'années, je dirais. C'est assez long à mettre en œuvre.
Safia Reski, auteur de l'ALN à l'ANP, la construction de l'armée algérienne 1954-1991 aux éditions de la Sorbonne. Elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Enfin, sachez que Radio Orient est diffusé à Poitiers depuis ce lundi en DAB+, en radio numérique. Votre radio qui poursuit l'extension de son réseau à un rythme soutenu. Ce nouveau lancement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 34 secteurs en DAB+, et 11 sur la bande FM. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme, très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Bientôt 12h18.